Bonjour à tous les Auroviliens. Aujourd'hui, je vais vous lire Sri Aurobindo, l'aventure de la conscience, écrit par Satprem. Et le chapitre est le chapitre 17, la transformation. L'agni fondamental. Au seuil de cette deuxième phase, nous retrouvons une conversation bien étrange que Sri Aurobindo eut en 1926, peu de temps avant sa retraite, avec un ancien polytechnicien français, Philippe de Saint-Hilaire, Pavitra. Les remarques de Sri Aurobindo, qui pouvaient alors sembler énigmatiques, jettent un jour bien singulier sur l'orientation de ses expériences. Il s'agissait de la science moderne. On retrouve deux énoncés dans la science moderne qui éveillent un écho profond du point de vue spirituel. Les atomes sont des systèmes tourbillonnants, comme le système solaire. Les atomes de tous les éléments sont faits des mêmes composants. Seules des différences d'arrangement sont la cause des différentes propriétés. Si l'on considérait ces deux énoncés sous leurs aspects véritables, ils pourraient conduire la science à de nouvelles découvertes dont on n'a aucune idée actuellement et devant lesquelles la connaissance présente est pauvre. Nous sommes donc en 1926, Sri Aurobindo poursuit. Les anciens yogis connaissaient un triple agni. Le feu ordinaire, Jada Agni, le feu électrique, Vaidyuta Agni, le feu solaire, Sora Agni. La science ne connaît encore que le premier et le second de ces feux. Le fait que l'atome est comme un système solaire pourrait les conduire à la connaissance du troisième. À quoi tendait Sri Aurobindo et comment se fait-il, d'abord, qu'il ait pu savoir avant tout nos laboratoires, sans parler des rishis védiques, il y a 6000 ans, que la chaleur solaire sera agni à une origine différente de ce que nous appelons le feu ou l'électricité, c'est-à-dire quel est le produit d'une fusion nucléaire et que la puissance de l'énergie solaire est semblable à celle qui est enfermée dans nos atomes. Il est un fait. Peut-être déconcertant pour la science qui ne juge que d'après les réalités concrètes. C'est que toutes nos réalités physiques, quelles qu'elles soient, sont doublées d'une réalité intérieure qui est leur cause et leur fondement. Il n'est pas jusqu'au moindre élément matériel qui n'ait sa doublure intérieure, à commencer par nos propres organes physiques qui sont seulement la doublure matérielle et le support des centres de conscience. Tout ici-bas est l'ombre projetée, ou la traduction symbolique d'une lumière ou d'une force qui est derrière, sur un autre plan. Tout ce monde est un vaste symbole. Une science analyse les phénomènes, met en équation la gravitation, la pesanteur, la fission des atomes, etc. Mais elle ne touche que les faits, jamais la cause vraie. Le yogi voit la cause avant les faits. Alors je répète, c'est très important, le yogi voit la cause avant les faits. Le savant peut déduire une cause d'après les faits. Le yogi déduit les effets d'après la cause. mais il peut même déduire des effets encore inexistants de par la cause qui existe déjà. L'accident qui arrivera demain, par la force de l'accident qui est déjà là derrière. Le savant manipule les faits et fait éventuellement des catastrophes. Le yogi manipule la cause, ou plutôt s'identifie à la cause, alors il peut changer les effets, ou comme dit Sri Aurobindo, les habitudes, que nous appelons les lois. Car en définitive, tous nos effets physiques que nous avons codifiés sous forme de lois ne sont rien de plus qu'un support commode pour la manifestation des forces qui sont derrière, exactement comme dans une opération magique où il faut avoir certains diagrammes rituels, certains ingrédients, certaines formules pour que les forces invoquées puissent se manifester. Le monde entier est une formidable opération magique, une magie continuelle. Mais le diagramme terrestre et tous les ingrédients que nous avons soigneusement et invariablement codifiés nous formulent infaillibles, sont simplement une convention. Le rituel terrestre peut changer. Si au lieu d'être hypnotisé par les effets, nous passons à la cause qui est derrière du côté du mage. On raconte l'histoire de ce brahman hindou qui chaque jour, au moment de célébrer les rites, faisait attacher un chat dans sa maison pour ne pas être dérangé. Le père mourut, le chat mourut. Le fils, devenu officiant, fit acheter un chat. Il acheta soigneusement le chat pendant le sacrifice. De père en fils, le chat est devenu un instrument indispensable à l'efficacité du rite. Derrière nos phénomènes de gravitation, pour prendre l'un des rituels, il y a ce que les anciens yogis appelaient Vayu. La cause de la gravitation et des champs magnétiques, comme le note Sri Aurobindo dans une de ses conversations de 1926. C'est ainsi que le yogi peut éventuellement défier la pesanteur. Derrière le feu solaire ou nucléaire, il y a l'agni fondamental. Cet agni spirituel qui est partout, le fils des eaux, le fils des forêts, le fils des choses stables et le fils des choses qui se meuvent. Même dans la pierre, il est là, dit le Rig Veda. C'est lui le poudroiement d'or chaud dont parlait la mer, lui la cause qui est derrière les faits, la force initiale derrière le support matériel atomique. Les autres flammes sont seulement des branches de ton tronc. C'est parce que Sri Aurobindo et les rishis avaient vu cet agni spirituel dans la matière, ce soleil dans l'obscurité, le soleil noir, qu'ils pouvaient avoir la connaissance de son effet matériel atomique et de fusion solaire avant tout nos laboratoires. C'est pourquoi aussi, connaissant la cause, ils ont osé parler de la transformation. S'il est vrai que la lumière physique, vitesse, immobilité suprême, est un remarquable symbole de la conscience suprême, il est également vrai que le soleil physique est un autre symbole de la puissance suprême, comme l'ont vu tant de traditions moins enfantines qu'on le croit. Mais les yogis hindous, remarquaient Sri Aurobindo, qui avaient réalisé ces expériences non pas cherchaient à en faire une connaissance scientifique. Ils avaient d'autres champs d'action, d'autres sources de connaissances. Ils ont négligé ce qui pour eux n'était que l'aspect le plus extérieur de la manifestation. Finalement, l'univers entier, du haut en bas, est fait d'une seule substance de conscience, force divine, l'aspect force ou l'énergie de la conscience est Agni. Au fils de l'énergie, dit le Rig Veda, volume 8, 84-4. C'est la force conscience. C'est une chaleur, une flamme, à n'importe quel niveau que nous l'attrapions. Quand nous nous concentrons dans notre mental, nous découvrons la chaleur subtile de l'énergie mentale ou Agni mentale. Quand nous nous concentrons dans notre cœur ou dans nos émotions, nous découvrons la chaleur subtile de vie ou Agni vitale. Quand nous plongeons dans notre âme, nous connaissons la chaleur subtile de l'âme ou Agni psychique. Il n'y a qu'un seul Agni du haut en bas, un seul courant de force conscience et de conscience énergie et de conscience chaleur et de conscience force qui se revêt d'intensité variable suivant le niveau. Il y a l'Agni fondamental ou Agni matériel qui est le stade ultime de l'énergie conscience avant sa conversion et sa densification en la matière. C'est le lieu de passage de l'un à l'autre. Rappelons l'expérience de la mer. C'est un mouvement qui dépasse la force ou le pouvoir qui concentre les cellules pour en faire une forme individuelle. La science moderne aussi a bien fini par voir que matière et énergie étant convertibles l'un dans l'autre, E égale MC2. C'est sa grande découverte, mais elle n'a vu que cette énergie et une conscience. Cette matière, une conscience, et donc qu'en manipulant la conscience, on peut manipuler l'énergie ou la matière. Pour transformer la matière en énergie, elle ne connaît que des procédés physiques produisant d'énormes températures. Si l'on connaît l'Agni fondamental, qui est le soubassement d'énergie ou de conscience-force, on peut en principe manipuler la matière et arriver à cette transmutation sans réduire son propre corps à l'état de torche vivante. La deuxième partie s'appelle la deuxième phase, le corps. C'est en 1926 que s'ouvre la deuxième phase, elle va s'étendre jusqu'en 1940. C'est une phase de travail indispensable sur le corps et dans le subconscient. Jusqu'ici, nous avons tous les indices, tous les films pour parvenir au changement de conscience supramentale et nous connaissons le principe de base de la transformation. C'est Agni qui fait le travail, dit le Rig Veda. Mais comment pratiquement cet Agni va-t-il procéder pour modifier la matière? Nous ne pouvons dire encore, nous ne connaissons que des petits bouts. Si nous connaissions le processus, dit la mère, ce serait déjà fait. Toutes les réalisations ont été minutieusement inventoriées par la tradition indienne avec un luxe extraordinaire de précision. Nous savons tous que les processus pour parvenir au nirvana, réaliser l'esprit cosmique, trouver l'âme, vaincre la pesanteur, la faim, le froid, le sommeil, les maladies, sortir à volonté de son corps et prolonger la vie, tout le monde peut y parvenir. Les voies sont connues. Les étapes décrites par les sages ou les shastras hindous depuis des millénaires. C'est une question de discipline et de patience, de moment aussi. Mais la transformation, personne ne l'a jamais faite. C'est une voie totalement inconnue, comme si l'on avançait dans un pays qui n'existe pas encore. Peut-être est-ce quelque chose de semblable qui s'est produit lorsque les premières formes mentales commencèrent à émerger dans le monde de la matière et de la vie. Comment l'organisme semi-animal qui a reçu les premières vibrations mentales pouvait-il comprendre et décrire cet étrange phénomène? Et surtout, comment pouvait-il dire ce qu'il fallait faire pour manier la pensée? Pour citer la mère encore, nous ne savons pas si telle ou telle expérience fait partie du chemin ou non. Nous ne savons même pas si nous progressons ou non. Si nous savions que nous progressons, c'est que nous connaîtrions le chemin. Il n'y a pas de chemin. Personne n'est allé là. On ne pourra vraiment dire que ce que c'est quand ce sera fait. C'est une aventure dans l'inconnu, dit Sri Aurobindo. Nous sommes un peu un primate devant cette création nouvelle. Nous ne pouvons donc plus désormais indiquer quelques lignes générales de développement ou de difficultés plutôt, sans être sûr que ce soit vraiment le processus. L'expérience est en cours. Lorsqu'elle aura réussi une fois une seule, dans un seul être humain, les conditions mêmes de la transformation changeront, parce que le chemin aura été tracé, aura été fait, les difficultés primaires déblayées. Du jour où Platon conçut le Phèdre, il élevait toute l'humanité à la possibilité du Phèdre. Du jour où un seul être humain aura vécu les difficultés de la transformation, il élèvera l'humanité entière à la possibilité d'une vie lumineuse, vraie, immortelle. On peut en tout cas avoir une idée du problème numéro un qui défie le chercheur. Cette agni, lorsqu'il se met à brûler dans le mental, à nos moments d'inspiration, nous savons bien qu'il crée une tension considérable, presque une chaleur physique. Alors voilà, aujourd'hui je termine l'aventure de la conscience de Sri Aurobindo, le chapitre 17, la transformation, par Satprem est terminé à Pondichéry le 14 avril 1963. L'aventure de la conscience et de la joie. Voilà, je remercie infiniment Sri Aurobindo et Mère pour cette merveilleuse indication écrit par Sri Aurobindo à travers Satprem, c'est ce que Dimer dit dans l'agenda. Alors je donne cette information parce que c'est très très important que tout le monde sache que c'est Sri Aurobindo qui a travaillé à travers Satprem. Je remercie infiniment Priya pour son travail à Auroville Radio. Merci Priya. Ganga Lakshmi, House of Mother Agenda, Savitri, Bhavan. Pranam.
Oui, vous écoutez Auroville Radio from Auroville, la ville internationale in India.